Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Benoît Dutrisac.
À un moment donné, qui gère le système?
Mario Dumont.
Le point, c'est que si les tribunaux peuvent prendre des décisions...
La rencontre.
Dans les deux cas, c'est d'une absurdité qui défie l'intelligence.
Excuse-moi, je t'arrête là.
Non, pas toi, là.
Ça ne les regarde pas.
Mais je comprends sa crainte.
C'est pour les imbéciles.
La rencontre Dutrisac Dumont.
Mario Benoît, bonjour à vous deux.
Alors, bonjour.
Commençons avec des nouvelles un peu locales, politiques. Anne Cazabonne, pour commencer, qui se présente pour Éric Duhaime.
Que vous recevez à l'émission
qu'on
tantôt.
Qu'on va recevoir tantôt, ouais, à 7h50.
Bon. C'est le début d'un temps nouveau. je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais moi, ce que je viens d'apprendre, c'est que le prochain candidat, on va faire Mme Cazabonne dans un instant, mais le prochain candidat, là, ça vient d'être confirmé, c'est François Amalega-Bitondeau. Le prochain candidat pour le Parti conservateur du Québec, là, Éric Duhaime va le recruter incessamment.
Ouais, mais tu fais de la caricature, mais c'est quand même ça dans le sens suivant, oui, c'est que moi, c'est ce qui m'a frappé hier, c'est la décision d'Éric Duhaime de dire je renonce, là, c'est trop tentant. De jouer entièrement la carte de la pandémie. Les restaurants sont encore refermés là, pour quelques semaines, puis tout ça. Et donc, je renonce à l'idée de créer un véritable parti conservateur, là, parce qu'on s'entend que ça devient... C'est la décision de dire c'est un parti... Bon, ils veulent pas qu'on les appelle complotistes. On sait plus quel mot prendre. C'est un parti anti-mesures sanitaires, disons ça, ou négationniste de la pandémie. La pandémie, c'est pas là, c'est pas grave. Les gens se font vacciner ou sont pas vaccinés, c'est pas plus grave, c'est leur choix personnel. Ça dérange pas, parce que la pandémie, de toute façon, est pas grave.
Privatisons le système de santé.
Ben ça, c'est correct. Renforcer le système de santé. J'aurais rêvé d'un parti politique sérieux qui amène des propositions sérieuses sur l'ensemble des sujets, là. Mais je pense qu'il a renoncé, sincèrement, je pense qu'il a renoncé à ça. Là. C'est que là, la campagne, elle va porter sur quoi, sincèrement? Là? Un seul et unique thème. Puis ceux qui vont voter pour eux, c'est des gens pas vaccinés. Tu tournes en rond, là, tout le temps, des mêmes affaires. Et Anne Cazabonne, qui était quand même assez habile hein, hier à répondre aux questions des journalistes, on a voulu la coincer, elle connaissait le programme du parti, elle l'avait visiblement étudié, était capable de s'exprimer clairement, de répondre aux questions. Mais c'est juste que elle est choisie comme candidate à cause de ses déclarations parce qu'elle a dit le vaccin c'est de la merde.
Elle a dit c'est de la marde.
Ouais, mais là.
Pour être précis.
Mais Mario, t'sais, il est poli.
J'ai tellement un beau langage à Cube Radio, un langage soigné que j'ai arrangé ça un peu.
Je suis là pour changer ça, moi.
Merci, ben ouais.
Mais, non, mais soyons
plus
précis.
Rigoureux, j'avoue, je dois te donner raison, t'es plus rigoureux.
Ouais. Mais quand même.
J'ai fait tourner quoi rond avec ma merde.
Mais effectivement, t'avais un parti conservateur, puis Éric Duhaime avait l'intention d'appliquer un programme, débarque la pandémie. Éric Duhaime a travaillé à l'ADQ. Tu sais, lui, il est de droite, il croit à ça. Puis là, t'avais Legault qui est arrivé, puis c'est comme il a centré ses politiques. Il y avait de la place là, à droite pour un parti sérieux, pour ceux qui voulaient
absolument
y adhérer. Mais là, c'est pas vrai. Là. Tu sais,
ça s'en va Maxime Bernier, là.
Ben c'est ça, la présenter en exclusivité, c'est comme c'était la candidate du siècle. Là. T'sais, on venait de découvrir la prix Nobel qui était en charge du...
Le fait qu'il la présente en premier, s'il y avait eu quelqu'un, une autre candidature économique, par exemple, en premier, puis qu'après ça, une Cazabonne est arrivée, on aurait pu faire comme, oh, OK, il y a toutes sortes de monde. Là, c'est que l'image que ça nous envoie pour la prochaine année, là, à moins qu'il annonce quelqu'un de nouveau, différent, qui change un peu de cassette, on va rester dans cette idée-là que ce parti-là, c'est le parti anti-mesures sanitaires.
Ouais.
Point.
Puis on a un exemple à Ottawa, on a vu Maxime Bernier qui était uniquement là-dessus, qui a fait campagne uniquement là-dessus, etc. Donc voilà. Donc ça. Bon. Puis même quand il va parler d'autres choses, sincèrement, on le croira plus vraiment. Là. On va avoir l'impression que c'est, ouais. Que c'est du crémage, que la vraie affaire, que le cœur du muffin, là, c'est le complotisme sanitaire. Fait que je vois pas, sincèrement, je vois pas où ça mène, là. Puis je souhaite bonne chance à Mme Casabonne. En même temps, j'ai toujours dit la même chose. Vaut mieux. Ils vont avoir 7, 8, 10% du vote. Il y a une opposition réelle aux mesures sanitaires dans la population. Puis j'aime mieux qu'elle s'exprime par la voie démocratique que par de la violence ou des vitrines cassées, là.
Mais ça tombe, disons que ça tombe mal. Disons que, en termes de timing, là, tu sais, on lit partout que le pic est pas atteint, dans les hôpitaux. Il y a un paquet de mesures, là, qu'on est en train de prendre. Le délestage, on reporte des opérations. Et t'arrives là avec un parti qui se dit sérieux, avec une candidate qui dit non, tout ça c'est faux, tout ça c'est pas vrai. Mais c'est pas, je les invite, je pense que c'est ça la recette, je les invite, M. Duhaime, Mme Casabonne, allez passer une couple de jours aux soins intensifs, allez aider dans les hôpitaux, allez voir si tout ça c'est une théorie de complot. Parce que ça, c'est presque insultant pour les gens qui se crèvent le cul là, depuis 2 ans, qui travaillent pas, qui n'ont pas eu de vacances, là, qui travaillent sans cesse, qui ont du temps supplémentaire imposé, de voir des clowns débarquer comme ça en politique, puis dire moi je pense que, puis selon mes recherches, je pense que, ben ferme ta gueule, parce que c'est de la foutaise. La réalité, on la vit là. Et aujourd'hui, on ouvre les écoles après la tempête, puis je vais vous dire. Chez nous, à la maison, on s'est demandé si on allait envoyer les enfants aujourd'hui à l'école. On va le faire parce qu'ils en ont besoin. C'est clair qu'ils en ont besoin. Mais dans les circonstances, là, c'est troublant. Fait que, tu sais, des candidatures de clowns comme ça qui connaissent rien, ni du cul ni de la tête, puis qui affirment des affaires qui ont pas d'allure dans un contexte sérieux où les gens sont malades, meurent et travaillent sans cesse, ne voient pas leur famille. C'est insultant, c'est une gifle. Ouais.
Mais l'autre affaire qui est insultante, c'est que, tu sais, Éric Duhaime, je le connais, mais mettons qu'il était au gouvernement, là. C'est l'idée que lui aurait rien fait avec les mesures sanitaires. Lui aurait laissé aller ça, ce virus-là, il aurait laissé ça se propager, pas de masque, le vaccin, si ça te tente pas de vaccin, on respecte ça, c'est ton choix, avec s'il y a 22% des gens qui se font vacciner, c'est bien correct pour eux, puis tout le monde se voit, les rassemblements familiaux aussi gros qu'on veut, tout ouvert, on multiplie les contacts.
Pis c'est pas grave si le système de santé fait du délestage.
Mais c'est parce que c'est pas vrai, là.
Ben non.
Philippe Vincent, il n'aurait pas fait ça. Il n'y a pas un dirigeant dans le monde, là, à gauche ou à droite, il n'y a pas un dirigeant dans le monde qui a vécu avec toutes les morts, sa conscience d'avoir rien fait.
Bolsonaro l'a pas mal fait. Là.
C'est le plus proche.
C'est vraiment. Puis même lui, il s'est rendu à l'hôpital de sans dessin.
Tout un succès. Mais tu comprends, c'est qu'il aurait fait la même chose que François Legault, peu de choses près. Peut-être quelques affaires différentes, tout ça. Mais je veux dire, il aurait fait des choses à peu près semblables à 90%. Donc, c'est un peu loufoque aussi, là, tu sais, de prendre le parti des gens qui sont frustrés, des restaurateurs, des propriétaires de gym. Évidemment, qui sont frustrés parce qu'ils vivent le coup dur de ça. Mais en faisant semblant, en répondant jamais aux questions sur, mais là, la pandémie, t'aurais fait quoi avec ça? T'aurais laissé aller ça? Et même s'il disait oui, voyons, est-ce que vraiment quelqu'un va le croire? Que lui, se serait croisé les bras, il aurait regardé ça comme spectateur, le monde rentrait à l'hôpital, tout malade, puis, c'est pas grave, voyons, il aurait jamais fait ça. Ça, c'est le bout qui est pas sérieux, là, ouais. qui est même pas crédible, même s'il dit, ouais, je l'aurais fait, tu pars à rire, voyons.
C'est presque dommage, hein? C'est presque dommage. C'est dommage qu'Éric Duhaime tombe si bas là pour être vu, pour être entendu, pour vendre des adhésions au Parti conservateur du Québec. Là. C'est dommage.
Mais ça marche, je veux dire, dans le fond, il y a des records d'adhésion, des records. Ben oui, au niveau des... Pas, ils gagneront jamais d'élection avec ça. Mais au niveau des dons, ben, tout ça, c'est fou. Il y a une clientèle mobilisée, des gens qui sont frustrés, qui sont choqués. Lui, il lance un appel à faire des dons sur Internet, puis ça rentre là 10 fois plus que dans tous les autres partis politiques. Là. C'est même pas comparable. Tu as une clientèle enragée, mobilisée, choquée, qui se fait mettre des passeports vaccinaux. Ben oui, c'est ça.
Ceux qui sont allés faire des commissions à SAQ et des provisions au cours des 2 dernières semaines.
Yeah.
Avant que ça entre en vigueur aujourd'hui, mais, le passeport vaccin.
Juste là-dessus, Éric Duhaime a écrit un livre sur la SAQ que j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé. Puis tu vois qu'il y a une réflexion sur la SAQ, sur les revenus, sur le service, sur les heures d'ouverture. Tu sais, vraiment, là, c'était un bon livre. Puis là, il arrive, puis il est capable de réflexion sérieuse avec des sujets réels. Puis là, il arrive avec Mme Casabonne. Bravo.
Parlons de Québec. Mario qui a un plan pour changer son approche dans les hôpitaux. Là, on apprend ça du côté de Radio-Canada ce matin. On nous parle de 4 aspects, notamment revoir, redéfinir la qualité minimale de soins, ne plus faire tout ce qui est en notre possible pour éviter que le virus entre à l'hôpital, freiner l'entrée de patients, puis on pourrait même reporter les chirurgies non urgentes et semi-urgentes, les gens les plus à risque, dont les non-vaccinés. C'est un guide là, que le gouvernement a entre les mains. Ça veut pas dire qu'on va le mettre en place, mais on a cet outil-là maintenant qui pourrait aller de l'avant.
Ben, c'est pas ce qui me frappe, c'est que ça détonne. Je suis pas surpris que le gouvernement prépare des scénarios. Écoute, faut juste se souvenir, là. Christian Dubé nous a dit tout l'automne, on a 700 lits COVID. Puis on avait 200 cas, 300 cas, c'est monté à 400 cas, puis on était toujours à l'intérieur du 700. Là, un matin, on va être genre à 3500. Ça, c'est 5 fois le nombre de lits COVID dans un système où, en plus, il manque plein de personnel. Donc, on n'est pas vraiment surpris. C'est juste que ça détonne, mettons, avec le discours. C'est comme si pour la journée de l'ouverture des écoles, François Legault s'est senti le besoin de mettre ça positif, de dire ça va bien aller, puis de laisser entendre que
la
tout
lumière
achevé,
est achevé, puis
le
pic est...
Oui, la lumière, l'expression la lumière au bout du tunnel, 4 fois, si c'est pas 8 fois dans le point de presse, puis tout ça. Alors que son système de santé prépare des scénarios apocalyptiques. Mm. Je pense pas qu'on va avoir besoin de se rendre là. Sincèrement, moi, je demeure quand même optimiste dans mon pessimisme. C'est-à-dire que je pense que ça va aller mal dans le système de santé, mais pas au point qu'on doive aller. Un peu comme à un certain moment, on avait préparé dans les soins intensifs le scénario de qui on traite, qui on traite pas. On s'est rendu proche, mais on s'est jamais rendu là. On n'a jamais eu besoin de se rendre là. Mais c'est quand même, tu dis, ouais, ton gouvernement, tu nous dis que tout va bien, mais ton gouvernement prépare dans le système de santé, prépare les scénarios les plus catastrophistes. Ça va pas si bien que ça, là. T'sais, donc, il y a un écart. Et c'est sûr que je reviens avec ça, mais je suis pas sûr que c'était le bon langage. Je pense qu'on aurait pu dire, on rouvre les écoles, même si ça va... Ben, c'est un peu ce que disait Jean-François Roberge, d'ailleurs. Ça va être très difficile, il va y avoir des cas... Mais dans une société, on renonce pas à faire tout ce qui est difficile. Il faut que les enfants aillent à l'école. Donc, même si c'est difficile, même si c'est tough, on va le faire quand même. Et c'est ce que François Legault a posé dire. Il a senti le besoin pour la journée où on rouvre les écoles de dire, ah ben, ça va bien aller.
Ben,
le
nombre de cas va
porter. Ouais, mais c'est pas juste tough, là. C'est que si les enfants retournent à l'école, propagent la COVID, sont eux-mêmes pas trop malades, quoi qu'il y ait une petite fille de 4 ans qui est décédée, là. Faut voir c'est quoi les raisons. Mais s'ils ramènent ce virus-là, pas si ils vont ramener le virus à la maison, si on rajoute des cas, des patients dans les hôpitaux qui débordent déjà. Carl Weiss dit qu'on est au moins un mois encore à être dans cette vague-là. Pas 2 jours, un mois. Pas 2 semaines, un mois. Fait que là, on se ramasse au mois de mars, là. Puis la lumière au bout du tunnel, c'est plus la lumière au troisième lien là pour François Legault. Il n'a pas de tunnel là, pour l'instant. Là.
Depuis deux ans, je peux-tu dire quelque chose? Depuis 2 ans, là, la lumière au bout du tunnel, c'est vrai qu'on l'a vu, mais à flash.
Oui. Puis
à flash, elle vient un petit coup, elle disparaît.
Je rappelle l'image du coyote dans Bugs Bunny. Tu sais, il pensait que c'était le Roadrunner qui s'en venait sur les rails, puis c'était un train là, puis il se faisait frapper dedans. Je sais pas pourquoi on dit pas clairement où on en est. Quels sont les véritables risques là, qu'on court? Moi, je vous le dis, là, on rouvre les écoles, les hôpitaux débordent. C'est quoi l'équation? Je peux pas croire qu'ils se sont pas parlé. Je peux pas croire qu'ils voient pas, qu'ils ont pas calculé. S'il y a tous ces scénarios-là, ils ont pas calculé c'est quoi les incidences que ça va provoquer.
Puis en même temps, il serait pas temps de regarder les hospitalisations différemment. Puis je veux dire que moi, c'est un des points qui me dérange ou qui m'obsède un peu. Qu'une personne, par exemple, qui rentre pour un bras cassé, triplement vaccinée, mais qui, devant un test PCR, est positif à la COVID, est traité de la même façon que quelqu'un qui est hospitalisé à cause de la COVID.
Puis maintenant, statistiquement, ils mettent dans des colonnes à part maintenant, là.
Ben, c'est dans les hospitalisations, là.
Oui, mais dans le rapport hospitalisation, maintenant, t'as deux colonnes.
Non, je sais, mais c'est traité de la même façon, avec la même genre de lourdeur.
Hier, j'ai posé la question au docteur Simon, là, de Québec. Ouais. Et il m'expliquait que dans les faits, c'est la même chose.
Ben, c'est ça.
Je dis, il faut qu'ils le traitent, c'est un protocole d'isolement. Ils peuvent pas se permettre que cette personne-là, même si elle est hospitalisée pour ce que tu viens de décrire, là, une fracture de l'orthopédie, et qu'elle est pas mourante de la COVID. Je veux dire, on peut pas se permettre que cette personne-là propage la COVID dans l'hôpital parmi le personnel. Donc, on doit la mettre en isolement avec toutes les procédures de zone rouge. Donc, une personne qui est hospitalisée pour autre chose mais qui a la COVID demeure une lourdeur pour le système hospitalier. Et c'est pour ça qu'il faut les comptabiliser, mais maintenant, on les met à part. Là.
Mais il disait
c'est
pas,
beaucoup.
Mais...
C'est la moitié de tous les cas hospitalisés qui ne sont pas hospitalisés dus à la COVID.
Il disait pas on va accepter les travailleurs qui sont asymptomatiques et qui sont atteints de la COVID, mais qui sont asymptomatiques. Et on n'a pas dit ça il y a 10 jours. On va les laisser revenir travailler en sachant que...
Cinq jours plutôt que 10, là, mais...
Il y a des bouts, là, où on me perd, là, tu sais. Puis on a beau mettre un cas dans une colonne, puis l'autre, il reste que sur les planchers des hôpitaux. Avec quoi? On est rendu à 16 000 personnels de la santé, là, qui sont absents à cause de la COVID. On en manque 50 000. Tu sais, que moi, que ce soit dans une colonne ou une autre, là, je pense que la réalité fait que là, il y a moins de services, il y a moins de gens pour donner les services en santé, pis ça déborde de partout. Là, les protocoles, tu sais, on fait des scénarios, sauf que on n'est pas sorti du bois, là. On n'est pas sorti de tout ça. Là.
Mais si moins... ça, dans les hôpitaux, là, s'il en rentrait un peu moins, tu sais, il y a quand même... Du côté optimiste, des choses, on a mis assez de pessimisme, mais il y a un gros roulement. Mettons, hier, je pense que c'était plus 81. Le bilan des hospitalisations, c'est plus 81. Mais le 81, j'arrondis les chiffres, là, c'est 400 entrées et 320 sorties. Fait que tu dis, s'il y avait moins d'entrées à l'hôpital, si on pouvait, tu sais, si on prend un peu le contrôle, puis avec les mesures, puis les gens qui sont supposés rester chacun chez eux, puis si on reprend le contrôle, il y avait quand même, hier, il y a eu 320 sorties. C'est-à-dire 320 personnes qui étaient à l'hôpital avec la COVID, puis qui en sont ressorties. Donc, on pourrait vider les listes. Si on avait juste 5 qui étaient rentrés hier, on aurait vidé de 220. On pourrait vider la liste quand même assez rapidement. Là. Il y a un espoir de reprendre le contrôle relativement rapidement.
Mais c'est ça le problème, c'est que la liste se vide pas. C'est que les gens continuent à s'infecter. Là. Puis ils continuent à s'infecter, puis on rouvre les écoles, puis on prend des
décisions. Les écoles vont en amener quelques-uns.
Je pense que oui. Fait qu'on n'est pas sorti du scénario. Ben. Et là, on va engager des gardes du corps pour la SAQ. Ça va être bon, là. T'sais, il va y avoir des batailles à l'entrée de la SAQ. Je voudrais juste qu'on me dise la vérité. Puis encore une fois, sous Arruda, c'était pas là, là, l'espèce de cohérence des décisions que le gouvernement prend. T'sais, on peut pas lui demander l'impossible, ni au gouvernement du Québec, ni à aucun gouvernement, présentement. Mais juste essayer de comprendre, on le fait là pour telle raison, puis on s'en va là, puis on souhaite avoir tel résultat.
Ils seront en point de presse à 13h, Christian Dubé et M. Boileau. On va peut-être parler aussi de cette nouvelle pilule.
Paxlovid. Tout le monde ensemble.
Bonne nouvelle.
Tout le monde ensemble. Paxlovid!
Ben oui.
Non, mais attendez, là, ça, on n'a pas. On va en avoir. On a eu quoi? 30 000?
30 000.
Ben oui.
Quand même.
Puis il y en a d'autres qui rentrent au mois de mars. Mais c'est peut-être la sortie, finalement, de la crise, de la pandémie, là, cette pilule-là. Ouais. Puis j'ai lu ce matin que Pfizer avait accepté de partager le brevet de la Paxlovid à 95 pays, à peu près 53% de la population mondiale. Si on est capable de distribuer ce médicament-là, il y aura moins d'infections dans tous les pays.
Moins d'hospitalisations, ouais, c'est ça.
Moins d'hospitalisations.
Mais pour l'instant, on a une quantité limitée. Ouais, mais il faudra décider à qui on les donne et à qui on les donne pas. Puis ça va être un beau, belle discussion, là.
Ouais.
Est-ce qu'on les donne en priorité aux non-vaccinés parce qu'ils sont à risque? Ça risque fort de... Non, mais ça risque fort d'être ça. Pour réduire les hospitalisations.
Non, mais c'est pas Mario qui cherche le trouble, c'est Jean-Yves Duclos qui l'a dit, hein?
Ouais. Ben oui.
Mais aux non-vaccinés qui vont passer avant ceux qui sont...
Ben, ils sont plus à risque. C'est ça le critère numéro un pour administrer le médicament.
Mais ça, mettons, là, on pose la question. Là. Puis ça, c'est 800 $ à peu près là, par traitement contre un vaccin de 40 $. Est-ce qu'on peut, je sais pas, il y a des médicaments qui sont pas couverts par l'assurance médicaments.
Déchargés?
Je sais pas, là, moi, je pose une question.
Je vais te dire, Philippe Vincent, la seule réponse que j'ai trouvée, c'est que ça donne totalement raison au gouvernement avec son impôt santé, là, avec sa contribution santé pour les non-vaccinés. Parce que, évidemment, si tu le charges, ça veut dire qu'une personne pauvre, tu vas arriver à côté du lit et tu vas dire, toi, on te le donne pas, là. Ou tu vas arriver à côté de la personne, toi, on te le donne pas. Tu veux pas ça.
Ouais, normalement, c'est à la maison qu'on le prendrait. Là.
Ouais,
c'est avant de développer
maison,
des symptômes. Là,
mais la personne qui... Donc, si tu le donnes à tout le monde, tu veux pas pénaliser la personne qui aurait pas les moyens de se le payer.
Ouais.
tu dis, OK, il est payé ce médicament-là par l'ensemble des contributions des non-vaccinés. Donc, indépendamment qu'il l'utilise ou qu'il l'utilise pas, mais c'est eux qui... Ça justifie totalement la contribution santé du gouvernement. Moi, c'est ce qui m'a frappé hier, parce qu'en même temps, si tu leur donnes pas, un, c'est contraire au principe du système de santé de soigner tout le monde. Là, on soigne le cancer du poumon aux fumeurs, un. Deux, c'est contraire aussi à la logique de désengorger les hôpitaux. C'est des gens qui sont à risque de se ramasser à l'hôpital. Donc, la seule réconciliation logique, c'est de dire, regarde, on le donne à tout le monde. Les non-vaccinés vont être dans l'ordre de priorité. Donc, quand leur non-vaccination leur permet d'avoir le médicament, mais ils vont l'avoir, mais leur contribution santé va rembourser le médicament. Mmh.
Messieurs.
Mais ça nous dit que le printemps s'annonce assez positif grâce à ce médicament-là.
Bon. Lumière au bout du tunnel, Benoît. Bonne journée à vous deux.
Salut.
Salut.